Le buzz du jour est aujourd'hui consacré à l'affaire Vincent Lambert. Le conflit familial autour de Vincent Lambert va donc se prolonger. Hier après-midi, le Conseil d'État s'est prononcé pour l'arrêt des soins qui maintiennent en vie Vincent Lambert, ce tétraplégique de 38 ans qui est en état végétatif. Hier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre l'euthanasie au Trocadéro à Paris à l'initiative du mouvement Provi Alliance Vita. Qu'en pensez-vous? Trouvez-vous aujourd'hui qu'il faut légiférer de façon claire concernant l'euthanasie? Si vous-même vous avez été confronté à ce problème, n'hésitez pas à nous appeler 3921. On attend vos avis au standard d'Europe 1. Avec nous pour en parler, Tuc Duhalderville, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita, donc à l'initiative de la manifestation qu'on a vue hier. Association qui agit, je cite, pour le respect de la vie et de la dignité humaine. Face à vous, François de Closet. Bonjour François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste essayiste, membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Tuc Duhalderville, l'objectif de la manifestation d'hier, c'était quoi précisément?
Bien, nous avons voulu manifester que, au fond, si effectivement nous voulions une société qui récuse l'euthanasie comme pour préserver l'interdit de tuer qui pour nous est fondateur de la confiance entre soignants et soignés et puis aussi du vivre ensemble, il fallait également, et c'est notre grande revendication, une politique de solidarité vis-à-vis des personnes les plus âgées, vis-à-vis des personnes les plus dépendantes. Et nous avons noté qu'il manque aujourd'hui en France ce plan de 500 millions d'euros pour développer les soins palliatifs qui rendraient des affaires comme l'affaire Bonne Maison complètement caduques car ces personnes âgées n'avaient rien à faire en marge de services d'urgence. Et par contre, il faudrait que dans les EHPAD où elles sont hébergées à domicile, elles aient accès à ces soins palliatifs. Et ainsi, on n'aurait pas des passages à l'acte de médecins fragilisés en burn-out qui rompent la confiance. On a entendu une personne de 95 ans qui a dit qu'elle ne fait plus confiance aux urgences et nous, ça nous inquiète beaucoup car la confiance dans les soignants, c'est vraiment absolument essentiel pour les personnes fragiles.
Vous avez dit une phrase assez forte, vous avez dit autoriser l'euthanasie, c'est autoriser le droit de tuer?
Ben oui, l'euthanasie, c'est, il faut le dire clairement, c'est le fait de tuer une personne alors que ce soit à sa demande, que ça soit peut-être, on l'a vu dans l'affaire Bonne Maison, sans sa demande, et puis l'affaire Vincent Lambert nous pose d'autres questions parce qu'il ne peut pas s'exprimer.
François de Closet, c'est le droit de tuer l'euthanasie?
Absolument pas. Et tuer, c'est supprimer la vie de quelqu'un qui vit et qui, normalement, continuera à vivre. En revanche, là, lorsque nous sommes en présence de personnes qui ne vivent que par assistance, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de médecine moderne, il y a 100 ans, Vincent Lambert serait mort tout de suite. C'est la médecine qui le porte à bout de bras. Et donc, ce n'est pas tuer quelqu'un que dire à ce stade... On ne doit plus le porter car ce n'est pas lui rendre service, c'est au contraire exercer une cruauté vis-à-vis de lui.
Pour vous, ça veut dire arrêter l'aide médicale en fait, c'est ça?
Mais absolument. Et autrement, ce que l'on regroupe sous le mot d'euthanasie, ce n'est pas tuer, c'est se tuer. C'est-à-dire décider que pour sa propre vie, on estime pour telle raison... justifié notamment médicalement, qu'on va l'interrompre. Je ne veux pas que l'on continue, sous le nom d'euthanasie, à confondre la maîtrise que je souhaite avoir de ma vie et les horreurs qui ont pu être commises sur la vie des autres. S'il vous plaît, occupez-vous.
Vous voyez, vous avez parlé de Vincent, Vincent Lambert, mais Vincent Lambert ne peut pas s'exprimer. Il n'est pas en fin de vie. Il n'a pas de traitement spécifique hormis des soins antidouleurs et par contre il dépend effectivement des soins qu'on lui donne en termes d'alimentation et d'hydratation. Et moi ce qui m'inquiète, ce qui nous inquiète, j'ai visité des institutions spécialisées, il devrait d'ailleurs être dans un service spécialisé pour ces patients d'hypo-cirrelationnels ou neurovégétatifs, elles existent en France. Je ne sais pas pourquoi il est en marge d'un centre de soins palliatifs. Ces patients, quelques 1700 patients, leurs proches, les soignants qui se dévouent auprès d'eux, qu'est-ce qu'on leur donne comme message aujourd'hui?
Juste pour bien comprendre, votre position, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui dit voilà, je souffre trop, je sais qu'il n'y a aucune issue, je sais que je vais mourir dans 2 mois, j'en ai marre de souffrir, je veux abréger mes souffrances, vous, votre réponse, ce serait de lui dire non, on refuse que toi tu décides de mourir.
D'abord, vous savez, j'anime un service SOS fin de vie et nous entendons parfois.
Bien sûr, effectivement. Non, c'est pour comprendre votre réponse.
Voilà, mon propre père, lorsqu'il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a ajuster les médicaments antidouleurs, la morphine qui existe. Il y a même une possibilité d'anesthésier totalement une personne. Donc, par rapport à ces enjeux, vous savez que l'euthanasie, elle est très rarement demandée par la personne elle-même. Très rarement, c'est exceptionnel. Le plus souvent par des proches ou par les soignants. Et donc, il est absolument essentiel, non pas de prendre au mot une personne, ce qui est une façon, au fond, de la rejeter, mais de l'écouter. Et les soins palliatifs sont extrêmement précis, techniques. On a fait des progrès considérables. Non seulement la médecine moderne nous a parfois sauvés, il y a un certain nombre de personnes parmi nous qui sont sauvées par la médecine, mais également les soins palliatifs modernes ne devraient plus donner lieu à ces injections létales désespérées.
C'est merveilleux de vous entendre, c'est terrifiant. Surtout, s'il vous plaît, si je me trouvais à la suite d'un accident, oui, dans la situation de Vincent, surtout, ne vous occupez pas de moi, non, mais... s'il vous plaît.
Peut-être
et
que...
en revanche, si ça vous arrivait à vous,
oui,
et si par extraordinaire expérience de pensée, moi non plus, je me trouvais être la personne qui a décidé de ce qu'il faut faire, alors je peux vous assurer que je serai l'homme de confiance qui se battrait pour que on puisse vous faire vivre jusqu'au bout, aussi longtemps que le permet la médecine. Je serai votre homme de confiance seulement si ça m'arrivait à moi. Vous, alors, vous diriez, mais il n'est pas question, comme il l'a écrit dans ses directives anticipées, qu'on ne réanime pas.
Est-ce que vous avez vu le film Intouchable?
Il n'est pas question, il ne peut pas être question que on lui donne la mort sans agonie. Quelle horreur.
Non,
autrement dit, moi, je suis en démocratie, vous, vous êtes en théocratie, vous
pas
voulez m'imposer votre façon de vivre et de mourir. Je ne veux que respecter
non,
la
vôtre. Non, je souhaite qu'on puisse vraiment prendre soin des personnes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui savent que derrière le film Intouchable, qui est un magnifique succès, il y a une histoire vraie.
Non, mais d'accord, je vais répondre à François Closet parce qu'il a été très clair, et en plus il parle de lui, donc c'est très clair. Lui vous dit, voilà, s'il m'arrive la même chose, moi je veux mourir. Et vous, vous répondez non.
Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit encore récemment
sur cette affaire? Est-ce que vous pouvez
répondre
à ma question?
Jean-Marc Morandi, vous allez découvrir que c'est ma réponse. Philippe Pozzo nous a dit, à l'origine du film Intouchable, nous a dit, ne touchez pas à l'intouchable. Si vous m'aviez demandé, lors de mes 42 ans, avant mon accident, si j'accepterais de vivre la vie qui est la mienne depuis 20 ans, j'aurais répondu, sans hésiter, non, plutôt la mort. J'aurais signé toutes les pétitions en faveur d'une légalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie. Il nous dit ça, mais quand il est devenu tétraplégique, il a découvert des capacités de vivre. Donc moi je dis François
Je comprends,
Cosé.
Donc vous dites à François Cosé, non.
J'ai entendu que François Cosé veut maîtriser. J'entends, ouais, je respecte ça. Mais je dis qu'il ne sait pas si... Il était dans une situation. Vous avez fait.
Regardez.
Oui, voilà.
On va expliquer aux auditeurs parce qu'on est à la radio. Oui. Vous avez pris votre portefeuille, François Closé, vous l'avez ouvert et vous nous montrez une feuille de papier.
J'ai ce texte.
Il y a écrit quoi dessus?
Il est écrit mes volontés. Je ne veux pas être animé. Si je dois, on ne peut rien faire pour moi. Je demande à ne pas mourir de faim et de soif,
bien sûr,
à ce que l'on utilise un sédatif, un produit qui me fasse mourir tout de suite. Je ne me sens pas obligé d'agoniser pendant des semaines parce qu'il y a des raisons religieuses qui me l'imposent. Je demande ça. Eh bien, voyez-vous, si j'étais dans la situation de Vincent, il est évident que vous feriez tout.
Je suis contre le fait de mourir de faim et de soif. Je suis contre le fait d'arrêter une hydratation.
Donc vous me permettriez d'avoir un poison? Merci.
Mais non.
Mais c'est un scoop que vous venez de lâcher.
J'ai pas dit ça, non, vous savez.
Donc vous me le refuseriez, vous m'imposeriez
de
mourir comme ça.
Je pense que vous savez...
Respecte votre liberté, vous respectez pas la mienne, c'est tout. Le reste, c'est du pipeau.
Mais est-ce que je peux répondre à ça? Je remarque, nous ne savons pas ce qui est très... Bien sûr, je respecterai le fait que vous ne vouliez pas être réanimé, que vous ne vouliez pas avoir de trachéotomie, etc. Même si on le sait bien avec certaines affaires, l'affaire Jean-Pierre Chevènement, il a survécu à une situation, on ne sait jamais exactement.
J'en parle.
Et par ailleurs, quand on sort de ces situations avec un handicap, je ne souhaite pas souffrir, je ne souhaite pas avoir un lourd handicap, mais j'ai accompagné, je partage beaucoup de mon temps avec des personnes lourdement handicapées, et je ne veux pas leur envoyer le message de leur dire, si tu es désespéré, je passe à l'acte. Si tu es désespéré, moi je souhaite prendre soin, accompagner, et j'ai remarqué, nous avons des témoignages à SOS Fin de Vie fréquents, quand il y a un bon accompagnement, nous sortons de la maîtrise de la
toute-puissance. On va aller au standard d'Europe. On va prendre des auditeurs. Bonjour Rémi.
Je voudrais un peu parler.
Bonjour Rémi.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Votre...
Vous
oui, très bien. Votre papa est décédé en 2002, c'est ça?
Voilà. Je voulais juste vous dire que je vous remercie pour l'ensemble de vos émissions.
Merci Rémi.
J'ai voulu intervenir parce qu'en 2002, les toubibs m'ont laissé mon papa de 66 ans, arrivé à 30 kilos, 1m75. Il a fallu que je me batte, avec le toubib pour qu'il fasse 3 injections de morphine pour abréger ses souffrances. Donc, vous imaginez pas ce que c'est de demander à un toubib d'abréger les souffrances du papa qu'on adore, alors 30 kilos, qu'il a 3 cancers, et que le toubib, qui a 32 ans, et qui a peur d'envoyer... Alors je lui ai dit, mais vous ne serez pas poursuivi, je m'engage, je prends la responsabilité. Donc ça, c'était le lundi, ils ont fait l'injection, le lundi soir, le mardi, mon papa est parti, en toute quiétude. Je demande juste une chose, c'est d'arrêter l'hypocrisie qu'on peut entendre au niveau des députés, des sénateurs et tout le reste. Laissez les toubibs travailler. Laissez les toubibs travailler. Le toubib, c'est quand il doit, mais il a peur. Il a peur, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu les yeux du jeune toubib, quand je lui ai dit « Allez-y, faites ce qu'il faut, s'il vous plaît, je ne veux pas que mon papa devienne transparent, 1m75, 30 kilos, 3 cancers », ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu dans ses yeux la peur des représailles, mais personne ne va vous attaquer après. Personne ne va vous attaquer après.
Réaction de François Closet.
Premièrement, il faut effectivement que les médecins sachent que d'abréger une vie, ce qui fait partie de la médecine moderne, parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que des affaires Lambert, il y en a des dizaines de milliers depuis des années en France, il y en a en permanence en France, simplement on n'en parle pas. Donc il faut d'une part une loi qui dise aux médecins, dans telles conditions, oui, vous pouvez le faire, mais il n'est pas question de dire c'est vous médecin qui déciderez, c'est à chacun de décider pour lui. Ce que je voudrais, c'est d'abord que la volonté de chacun soit exprimée dans des directives anticipées. Il faut que dans tous les hôpitaux de France, chaque fois que quelqu'un est admis, on lui donne un formulaire à remplir sur ses volontés et qu'il y ait une centralisation informatique de toutes ses volontés, donc que lorsqu'un médecin se retrouve avec une personne qui n'est plus consciente, parce que monsieur, tout ce que vous dites, évidemment qu'on peut changer d'avis, simplement si je suis conscient, on va pas dire monsieur, vous avez écrit ça, maintenant vous voulez plus, donc on s'en tient à ce que vous avez écrit. S'il vous plaît, on parle des gens inconscients. Et pour cela, il faut qu'il y ait à l'échelle de la France un serveur qui permette à un médecin instantanément de savoir si le malade a ou le patient a ou n'a pas donné des directives, les connaître et les respecter. C'est la base de tout. Et si les Français ne sont pas capables d'exprimer eux-mêmes leur volonté quand ils se portent bien, quand ils sont jeunes, pas quand ils sont à la porte de la mort, eh bien, effectivement, il n'y a pas de solution. On ne peut pas se réapproprier sa propre existence sans faire preuve d'un peu de responsabilité en continuant à être comme tous ces pays latins qui, face à la mort, mettent la tête dans le bénitier et la sortent du bénitier pour la mettre dans le sable.
On va aller au Standard d'Europe 1. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Brest et vous aviez envie de réagir. Hein.
Oui, tout à fait, parce que il y a à peu près 15 jours, j'ai assisté à l'euthanasie du chat de mes parents, qui était atteint du sida du chat. Mmh. Il souffrait énormément. Et là, on l'a laissé tranquillement partir, juste avec une injection qui l'a endormi. Il est parti sans souffrance, etc. Pourquoi on ne fait pas ça pour les humains?
Vous voulez dire qu'aujourd'hui on autorise l'euthanasie pour les chats, pour les chiens, on les autorise à partir dans la dignité, mais on l'autorise pas aux humains, c'est ça?
Exactement.
Réaction de Tuc Duhalderville.
Ouais, bah, j'aime beaucoup les animaux et effectivement je pense qu'il faut pas faire souffrir les animaux, mais les animaux sont pas
les humains alors.
Les animaux ne sont pas des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Il y a une question.
Non, parce que la question.
Nous avons le droit de souffrir, faut en profiter.
Non,
merci.
Je vous ai laissé parler, François de Closet. Moi, j'ai beaucoup de. D'abord, j'ai entendu tout à l'heure un témoignage très fort, hein, bien sûr, sur une personne qui a exprimé une demande répétée de morphine pour son père. Mmh. Et cette demande, il a eu toutes les peines du monde à Rémi à obtenir cela. Évidemment, ça me choque beaucoup. Mmh. Je suis frappé par ces situations de prise en compte inadéquate de patients en fin de vie qui n'ont pas les soins antidouleurs appropriés alors que c'est possible. Il y a eu effectivement en France une grosse réticence à la morphine pendant pas mal d'années. Mmh. Et j'entends que les professionnels de santé ne sont pas assez formés dans le domaine de la lutte contre la douleur.
J'aurais vous répondre à Catherine.
Oui. C'était pas ma question. En fait, ma question, c'est pourquoi on autorise nos animaux à partir sans douleur et en s'endormant tout tranquillement et qu'on n'autorise pas ça aux humains?
Mais vous imaginez bien ce que ça signifierait. Le chat n'a rien demandé. L'être humain c'est lui qui domestique les animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Si on commence à considérer les êtres humains comme des animaux, mais alors vous imaginez toutes les dérives.
Mais nous sommes que des mammifères.
Nous échangeons en ce moment, vous et moi, et on échange sur le sens de la vie et de la mort.
Oui,
et ça,
mais c'est ce que vous dites, c'est plus large ce que dit Catherine, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que nos animaux ne souffrent pas. On est d'accord. Mais pourquoi on peut pas avoir le même sentiment pour quelqu'un qu'on aime?
Il faut tout faire.
On veut que cette personne ne souffre pas
non plus. Bien sûr, il faut tout faire, mais pas de la même façon, parce qu'on sommes des êtres humains et le respect de la vie entre êtres humains est absolument majeur. Parce que si on commence à porter atteinte à ce respect dans le cadre de gens extrêmement vulnérables, on le voit dans les affaires. Au fond, on finit par considérer qu'il y a des vies qui sont de trop, que les gens très dépendants, en fin de vie, etc.
Pas qu'ils sont de trop. Il y a des gens qui souffrent trop et qui ont envie d'arrêter leur vie. C'est pas la même chose. On va faire une pause. On en reparle dans un instant. Restez avec nous. C'est Europe 1. À tout de suite. Vous continuez à nous appeler au standard 3921.
Europe 1. La suite du buzz du jour, comprenez-vous la décision du Conseil d'État d'arrêter les soins pour Vincent Lambert? Pour en parler, Tuc Dual-Derville, qui est délégué général d'Alliance Vita, une association qui agit pour le respect de la vie et de la dignité humaine, et François de Closet, journaliste et essayiste et membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Et vos appels au standard d'Europe 1, bien évidemment. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes directeur d'une maison de retraite.
Oui.
Et vous êtes confronté des fois à cette demande d'euthanasie?
Ben oui, effectivement, on constate, si vous voulez, parmi nos personnes âgées, qu'il y en a bien un certain nombre d'entre elles qui n'en peuvent plus, mais on constate aussi cette ambivalence chez eux, chez elles. Hein. Le matin, elles n'en peuvent plus. L'après-midi, elles sont à nouveau reboostées parce qu'elles ont eu une visite, parce qu'elles ont eu un moment heureux dans leur vie, et elles renvoient en fait en permanence au personnel qui sont souvent surpris, vraiment ce désir de vivre et de vivre jusqu'au bout. Et alors il y a quand même quelque chose qui m'interpellait, et c'est pour ça que c'est urgent surtout de ne pas légiférer, parce que on va casser la relation qu'il y a et qui est tellement complexe, tellement intime entre la famille, la personne elle-même bien sûr, et puis tout le monde médical qui je rejoins là Tuc Dual-Derville, est quand même pas très adapté. Envoyer une personne âgée aux urgences aujourd'hui, c'est une catastrophe. Elles ont besoin d'être accompagnées. Nous avons besoin d'être soutenus, nous, dans notre métier, pour accompagner jusqu'au bout les personnes et respecter leurs désirs. Elles le demandent. J'ai encore en tête cette personne qui s'est accrochée à nous, alors même que la famille, parce que nous n'avons pas eu suffisamment le temps de les accompagner, ces familles qui sont souvent dans le désarroi, c'est elles, c'est vrai, je rejoins là aussi cette idée selon laquelle ça n'est pas les personnes qui demandent elles-mêmes à mourir, mais c'est souvent la famille.
C'est l'entourage. Merci Daniel de l'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Eliane. Bonjour Eliane.
Bonjour Monsieur Brandini.
Alors vous êtes dans une situation un peu compliquée, hein, parce que il y a visiblement une dame que vous connaissez qui a 90 ans, qui souffre,
oui, exactement.
Qui souffre beaucoup.
Je m'occupe un peu, si vous voulez, qui souffre beaucoup et qui, mais malgré tout, a toute sa tête et fait tout chez elle, si vous voulez, pratiquement. Hein. Elle n'a personne, voilà.
Et elle vous demande de trouver une solution pour pouvoir mourir, c'est ça?
Voilà. Alors moi j'ai téléphoné dans différents endroits, si vous voulez, parce qu'elle a fait toutes ses affaires elle-même, c'est-à-dire qu'elle est propriétaire, si vous voulez, et elle a juste une nièce qui est tout à fait d'accord avec ça. Elle ne veut pas aller en maison de retraite, elle appelle ça un roi, et elle voudrait, comme elle dit, c'est une ancienne institutrice, elle dit, je veux, garder jusqu'à la fin le contrôle sur ma vie. Et elle dit, je veux absolument trouver une solution, mais finir ma vie chez moi, tranquille, et sans que trouver un médecin ou quelque chose qui me fasse partir comme ça.
Et aujourd'hui, c'est impossible en France, hein?
Aujourd'hui, c'est impossible en France.
François de Closet, qu'est-ce qu'on fait dans un cas
comme
ça?
On regarde ce qui se passe dans les pays qui ont essayé. Dans l'État d'Oregon, ils ont admis le suicide assisté. Quelques années plus tard, qu'ont-ils constaté? C'est que, schématiquement, après le tiers des gens qui viennent en disant « Docteur, je voudrais finir ma vie », sont des dépressifs, on les soigne, ils veulent plus se suicider. Un tiers, ils souffrent, les souffrances sont mal gérées, on leur donne des calmants, ils ne veulent plus se suicider. Un tiers reçoit jusqu'au bout, et au total le suicide assisté a réduit le nombre des suicides dans l'Oregon.
Non, justement pas. Dans l'Oregon, le suicide a explosé. Je me suis renseigné sur ce point.
C'est complètement...
Le suicide de... Parce que quand on lève la crise suicide, vous savez, on a
c'est
un million...
C'est impossible d'entendre
on a,
ça.
Si,
on a
François
des
Closet,
études
on a
très 1
million
précises
200 000,
qui sont dans
on
le
on
sens
a 1 million
de ce que
200 000
dit.
Personnes âgées isolées socialement dans notre pays, dont cette personne sans doute de 90 ans. Vous imaginez le message qu'on envoie à ces personnes lorsque dans des moments de désespérance, cette fameuse crise suicidaire, et j'en ai parlé avec des spécialistes de la prévention du suicide. Si dans un moment de la crise suicidaire, on commence à laisser passer le message que des personnes de 90 ans qui sont autonomes à domicile, il faudrait leur donner droit à ce suicide médical. Vous imaginez l'exclusion?
D'un mot, franchement,
c'est
en Suisse, depuis 30 ans, le suicide assisté est accepté. L'association Exit qui le pratique.
Moi, je suis très choqué par
combien
par
fait-elle de suicides chaque année? Dites-le-moi combien. À peu près 250.
Des personnes malades mentales ont été suicidées. Des jumeaux ont été suicidés.
On verra ce débat. Merci à tous les deux. Merci Tugdual Derville, directeur général de l'Alliance Vita. Merci François de Closet, journaliste et essayiste et membre du comité d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité.